religions du monde. Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. François est arrivé hier soir au Japon pour une visite d'à peine 3 jours qui fait suite aux 3 journées passées en Thaïlande où il a rencontré la toute petite communauté catholique. Au Japon, François arrive également en pays bouddhiste, mais aussi Shinto, la religion impériale japonaise. Et le pape, qui aspirait dans sa jeunesse à mettre ses pas dans ceux des missionnaires jésuites qui ont évangélisé le Japon au XVIe siècle, arrive par la grande porte au pays du soleil levant où les chrétiens ne représentent que 2% de la population et les catholiques 0,4% et qui sont pour une partie d'entre eux les descendants des chrétiens cachés. En effet, pendant 250 ans du XVIe siècle au XIXe siècle, le christianisme fut interdit et sévèrement réprimé au Japon. Et les chrétiens ont vécu leur foi dans le secret de leur maison et de leur cœur, la transmettant de génération en génération. Temps fort de cette visite de François au Japon, sa présence ce dimanche à Hiroshima et à Nagasaki, les deux villes martyres japonaises de la Seconde Guerre mondiale, sur lesquelles furent larguées par l'armée américaine les 6 et 9 août 1945 la bombe A, la bombe atomique, entraînant la capitulation du Japon le 15 août. Cette journée de dimanche du pape François est placée sous le signe de la paix et de la non-prolifération de l'arme nucléaire, avec le message prononcé à Nagasaki et puis à Hiroshima, une grande rencontre au Mémorial de la Paix. Autant de temps forts qui convoquent l'histoire, en ce qui nous concerne celle des catholiques japonais dans la Seconde Guerre mondiale, et puis cette église catholique japonaise ultra minoritaire. Qui est-elle? Comment se porte-t-elle? Claire Le Segretin, grand reporter au service religion du quotidien La Croix, et de retour d'un grand reportage au Japon, répondra à ces questions. Mais c'est tout d'abord à l'arme nucléaire que nous allons nous intéresser avec l'évêque français aux armées, Mgr Antoine de Romanet, qui a publié une longue réflexion personnelle à l'occasion de cette visite du pape à Nagasaki et Hiroshima sur l'Église catholique et l'arme nucléaire. Première question posée, comment l'Église s'est-elle positionnée dans le temps par rapport au nucléaire militaire et notamment au traité de non-prolifération des armes nucléaires, le TNT, ratifié en 1968, puis le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, adopté par les Nations Unies à 122 voix, dont celle du Saint-Siège, mais sans aucune voix d'un État possesseur de l'arme nucléaire, ni d'un membre de l'Alliance Atlantique. On écoute Mgr de Romanet.
Si vous voulez, à la vérité, la question du désarmement nucléaire, elle s'est posée dès le lendemain d'Hiroshima et de Nagasaki. Hiroshima-Nagasaki, nous sommes dans cette course avec les nazis pour savoir lequel des deux, des alliés ou des nazis, possédera la bombe atomique. Et on est dans une logique d'emploi, pour la seule et unique fois au monde, et avec un effroi absolu des conséquences absolument tragiques de cette arme de destruction massive indiscriminée qui fait douloureusement écho au bombardement de Dresde, mais qui, par son aspect de puissance absolue en allant à l'origine de la matière, conduit à un effroi généralisé. Et c'est Oppenheimer qui a contribué à ce projet Manhattan, disant « les peuples doivent s'unir ou ils périront face à ce péril si grand, si cette arme est dans les arsenaux militaires des différents belligérants, on court au drame absolu ». Et donc la question se pose dès l'origine. Et dès l'origine, les Américains engagent avec les Russes des négociations sur ce sujet. Les années 50 se développent avec les pays qui, dans les faits, sont les membres du Conseil permanent de sécurité qui acquièrent la bombe atomique, qui sont donc les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne. Dans les années 60, le président Kennedy est extrêmement inquiet de la prolifération et se dit « si nous continuons comme cela, il y aura 30 ou 40 États nucléaires à la fin du siècle, c'est tragique ». D'où la négociation du traité de non-prolifération signé en 1968. C'est le traité le plus ratifié au monde après le traité des Nations Unies. Toutes les nations, sauf 4, l'ont signé. Et ce traité dit de la manière la plus claire que 5 États possèdent la bombe atomique et peuvent la conserver. Tous les autres qui ne l'ont pas s'engagent à ne pas chercher à l'acquérir. Et tous les États peuvent avoir accès aux applications civiles et médicales de l'énergie nucléaire. Et cet article 6 prévoit que tous vont de bonne foi vers un désarmement général et un désarmement nucléaire concerté et contrôlé.
Désarmement que demande aussi l'Église.
Donc ce désarmement, qui est évidemment le souhait de l'Église de la manière la plus forte dès l'origine, si vous voulez, Pie XII a immédiatement dit l'effroi que causaient ces armes de destruction massive indiscriminée. Et l'emploi de l'arme atomique a été toujours condamné de la manière la plus ferme par l'Église. Le Concile Vatican II marque également dans Gaudium et Spes la manière dont l'Église s'inquiète de ces armes absolument tragiques qui contreviennent complètement à ce qu'on a appelé le droit de la guerre, mais qui distingue entre les civils et les militaires. Là, on a une destruction totale, absolue, indiscriminée, qui ne peut que saisir d'effroi.
Condamner l'arme nucléaire de la part du Saint-Siège, ça n'est pas difficile, hein, ça n'est pas une position difficile. C'est une position très, très logique, j'allais dire, de la part de l'Église. En revanche, que préconise le Saint-Siège pour sortir de l'arme nucléaire ?
1982, déclaration fondamentale du pape Jean-Paul II, disant que compte tenu du contexte géostratégique, l'arme nucléaire est moralement licite à titre transitoire. Voilà. On est dans cette période de guerre froide, et compte tenu du contexte, voilà, moralement licite, pour avancer vers un désarmement. 1989, nous venons d'en fêter le 30e anniversaire, la chute du mur de Berlin, le sentiment que c'est la fin de l'histoire, que c'est le bloc de l'Ouest qui a tout jamais gagné, qui n'a plus vraiment d'adversaire à l'Est, le sentiment aussi que les efforts de désarmement ne sont pas très prégnants, et donc l'Église catholique américaine donne un texte en 1993 pour dire qu'elle retire son soutien moral à l'arme nucléaire, ce qui veut dire que jusque-là, une sorte de consensus pour dire, bien écoutez, dans la situation actuelle, c'est un moindre mal. Bon. L'évolution vient effectivement de ce Ban Treaty. Le pape François a des mots très forts et très prophétiques et très remarquables pour mettre en garde l'humanité sur ce danger fondamental de faire reposer sa sécurité sur des armes de destruction massive indiscriminée. Et donc, il vient pousser un cri et d'une certaine manière, c'est l'une des autorités morales les plus respectées au monde. Et donc, l'Église vient apporter avec tous ses pays signataires un grand cri pour dire... avançons ensemble, réfléchissons, nous ne pouvons pas rester simplement dans ce statu quo qui est redoutable. Alors, le pape propose dans son texte Evangelii Gaudium quatre critères très éclairants sur ce sujet, parce que au fond, tout le monde veut sortir et aller vers un désarmement. La question, c'est quel est le chemin et quelle est l'authentique volonté. C'est toute la question des relations internationales, c'est toute la question des relations entre les États-nations et la manière dont les États-nations peuvent articuler leurs relations avec un bien commun qui leur est supérieur. C'est l'idée fondamentale portée par la doctrine sociale de l'Église que le bien commun, c'est plus que l'addition des intérêts individuels. C'est l'idée fondamentale que les États-nations doivent absolument entrer dans une relation de coopération, d'écoute, de dialogue, qui soit ultimement une relation de fraternité. Ce que nous découvrons avec beaucoup de force dans les années récentes, c'est la manière dont nous sommes tous, absolument tous, unis sous le même ciel, que nous sommes tous dans la même embarcation, que toutes les questions sont liées, et c'est la grande thématique formidable du pape François dans Laudato si. Les questions de biodiversité, de réchauffement climatique, de démographie, de ressources naturelles, tout cela est absolument totalement lié.
Et le nucléaire en fait partie.
Alors, le nucléaire est une des questions, parce qu'effectivement, s'il y avait un conflit nucléaire, par exemple, entre l'Inde et le Pakistan, ça impacterait très au-delà de ces deux pays. Et effectivement, le nucléaire nous donne un effroi considérable, parce que l'homme a effectivement la possibilité de conduire physiquement à la fin du monde.
Monseigneur de Romanet, évêque aux armées, on peut lire le document complet qu'il a écrit sur l'Église et l'arme nucléaire en 2019 dans la revue Commentaires. Shintaro Yuzawa, physicien de formation à 52 ans, il est arrivé en France à l'âge de 12 ans et a en charge la communauté catholique japonaise de Paris, boulevard Edgar Quinet, dans le 14e arrondissement. Il souligne l'importance de la venue du pape François à Nagasaki et Hiroshima. De plus, Nagasaki est le berceau du catholicisme japonais. Nagasaki, ou le quartier de la cathédrale, où vivait une forte communauté de descendants des chrétiens cachés, a été l'épicentre de l'explosion nucléaire le 9 août 1945, qui a dévasté la ville.
C'est important pour l'ensemble des Japonais et non seulement pour les catholiques. Et j'apprécie vraiment que le pape ait utilisé la photo du petit garçon qui porte sur son dos son petit frère mort qui attend la crémation. Parce que cette photo montre un garçon qui est un Japonais, anonyme. Il n'est pas forcément chrétien. Et le pape François a parlé à la télévision de Nagasaki de martyrs. Il a parlé de deux martyrs des Japonais, c'est-à-dire que le premier martyr, c'est bien sûr le martyr des chrétiens cachés, persécutés pendant 2 siècles et demi. Mais il a parlé aussi de deuxième martyr, ce sont les Japonais qui ont survécu à la destruction, mais qui ont reconstruit le pays avec beaucoup de courage. Et il a parlé de ces Japonais, en général, de martyrs, donc qui témoignent de cette espérance en la vie qui est plus forte que la mort. Et c'est ça, cette espérance qui est transmise par les martyrs des chrétiens cachés.
Oui, effectivement, nous allons parler un peu plus tard avec vous, Shintaro Yozawa, de ces chrétiens cachés hein, qui, pendant 2 siècles et demi, de 1587 à 1873, vont vivre leur foi à l'abri hein, des regards, une fois qu'ils vont conserver intact. Restons encore sur cet événement, hein, le pape à Nagasaki, aujourd'hui, et à Hiroshima. Avec cette photo de ce petit garçon hein, que vous évoquiez il y a quelques instants, qui porte son frère sur son dos. Il attend la crémation. Cette photo, on la doit à un photographe américain qui est venu, après la bombe, photographier. Il n'avait normalement pas le droit de prendre des photos de civils. C'était uniquement des photos militaires. Mais il avait deux appareils.
Oui, cette histoire de photographe américain, c'est vraiment l'histoire d'une conversion. Donc, le photographe s'appelle Joe O'Donnell. Et donc, c'est un marine qui s'est engagé après l'attaque de Pearl Harbor. Il était vraiment animé par le désir de la vengeance. Il voulait venger les Japonais qui ont attaqué vraiment Pearl Harbor par surprise. Donc, il était animé par le désir de vengeance, mais il a été envoyé à Nagasaki pour prendre des photos de la puissance de la destruction. Il est arrivé au septembre 1945, mais quand il a vu cette souffrance causée par la bombe atomique, non seulement la puissance de destruction, mais la souffrance causée aux malades, et qui était complètement irradié, et des enfants qui se montraient à lui avec vraiment toute innocence, son désir de vengeance a disparu et s'est transformé en compassion. Et c'est ça qui est vraiment important pour nous aujourd'hui, c'est avoir la compassion, l'empathie envers la souffrance causée par la guerre. Et c'est ça qui a changé le cœur de cet photographe américain, Joe O'Donnell, et qui a longtemps caché ses photos, parce que ses photos étaient interdites, mais qui a pris un jour la décision de publier ses photos, et il a été attaqué par beaucoup de personnes, beaucoup des Américains qui pensaient... Et qui sont encore beaucoup à penser que le bombardement était justifié pour arrêter la guerre. Mais au-delà de cette, comment dire, la discussion sur l'utilité ou non, il faut vraiment sentir la souffrance de l'autre. Et je pense que c'était vraiment un acte courageux de la part de ce photographe.
Shintaro Yozawa, Nagasaki est le berceau des catholiques au Japon ?
Oui, tout à fait. Nagasaki, c'est vraiment le cœur du catholicisme au Japon. Le pourcentage des catholiques, 10% à Nagasaki, c'est vraiment le plus important de tout le Japon. Et c'est marqué par l'histoire de persécution. Mais j'aimerais évoquer la grande figure du christianisme au Japon après la guerre, c'est Dr Nagai. Docteur Nagai était un médecin, un radiologue, et sa femme était descendante des chrétiens cachés. Donc, il vivait près de la cathédrale et il a perdu sa femme. Parmi les catholiques, il y a 8000 morts. Donc, juste après le bombardement, il y a eu une grande funéraille et il a fait un grand discours pour rendre hommage aux victimes catholiques anéanties par la flamme nucléaire, et il a parlé de sacrifice. Et il a dit que c'est grâce à ce sacrifice que le Japon a été sauvé, parce que l'empereur a pris la décision d'arrêter la guerre à cause de ces bombardements de Nagasaki et de Hiroshima. Et c'est quelque chose qui a touché le cœur de l'ensemble des Japonais. Non seulement les Japonais, les Coréens sont très touchés par cette histoire, et il y a des pèlerins, des grands nombres de pèlerins qui rendent visite à la petite maison où habitait Dr Nagai.
Oui, vous faites allusion à la petite maison du docteur Takashi Nagai, installée sur l'emplacement de son ancienne maison. Le docteur Nagai, qui atteint de leucémie qu'il avait contractée avant la bombe par son métier de radiologue, alité, va recevoir effectivement des visiteurs, dont l'empereur Hirohito, et produire des écrits abondants, dont le best-seller « Les cloches de Nagasaki », publié en 1949. Alors, est-ce qu'un procès en béatification a été ouvert à son égard ?
Pas à ma connaissance, mais je pense qu'il devrait être béatifié.
Les catholiques n'ont pas été des pacifistes.
Oui, c'est une question vraiment importante, mais complexe. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire du catholicisme pendant la guerre, les déclarations officielles de l'archevêque, c'est vraiment dans le sens de soutien complet à l'expansionnisme japonais. Je pense que hiérarchie était convaincue de la justice de cet engagement du côté de l'expansionnisme. D'ailleurs, le pape Pie XI, en 1937, a donné des directives pour soutenir l'action militaire des Japonais. Mais il faut penser au contexte de l'époque, et cette guerre d'invasion menée par le Japon était présentée comme une lutte contre le communisme athée. Et le pape Pie XI venait de publier en 1937 l'encyclique sur le communisme athée. Mais il faut dire que c'était vraiment un aveuglement quand nous savons maintenant les atrocités commises par l'armée japonaise envers les Chinois et envers les Coréens. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose de vraiment important. Le pape Jean-Paul II a appelé vraiment à faire la purification de la mémoire. C'est-à-dire, c'est vraiment revenir à l'histoire de l'Église, c'est-à-dire reconnaître les péchés commis par l'Église. Et d'ailleurs, en 1986, au cours de la messe célébrée à la cathédrale, Monseigneur Shirayanagi, le cardinal et l'archevêque de Tokyo, a fait publiquement, a demandé le pardon à toutes les souffrances causées par la guerre du Japon, et il a reconnu la responsabilité de l'Église catholique. Il a reconnu que l'Église a collaboré. Pour la hiérarchie de catholique de l'époque, c'était présenté comme une guerre sacrée.
Shintaro Yuzawa, deux événements à noter concernant deux prêtres français des missions étrangères de Paris, les MEP. En mars 1943, il y a le père Sylvain Bousquet, donc des MEP, qui a été torturé, qui va mourir de pneumonie après cette torture, parce qu'il a dit, il a enseigné à des jeunes que l'empereur n'était pas un dieu. Ça, c'était extrêmement dangereux de dire cela à l'époque. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, ça le reste encore aussi pour certains nationalistes japonais. Et puis, en mai 1945, le père Alfred Mercier, lui, il est soupçonné d'espionnage. Il va être torturé longuement et il ne sera libéré qu'à la fin de la guerre. Comment resituer ces deux événements ? Est-ce qu'il faut les resituer dans cette méfiance à l'égard du christianisme, religion de l'étranger ?
Oui, c'est ça, c'est... Superficiellement, la religion chrétienne était bien acceptée. Il y a beaucoup de gens cultivés qui s'est convertis au christianisme, mais en fait, ça représentait l'Occident, les valeurs de l'Occident.
Shintaro Yuzawa, on va aller vers les catholiques aujourd'hui au Japon. Donc ils sont 400, à peu près 441 000, hein, donc de catholiques japonais. Il faut rajouter à ce chiffre 600 000 de catholiques venant de l'étranger, hein, notamment de Vietnam, des Philippines, du Brésil aussi, donc pour des raisons, on le suppose, économiques. Ces catholiques japonais, deux centres, il y a Nagasaki, donc on va dire en grande partie, ils descendent de ces chrétiens cachés, hein, qui sont cachés pendant 2 siècles et demi. Et puis, il y a les catholiques de la capitale, de Tokyo. Ce sont les mêmes? Ils sont très différents?
Ils sont très différents. Parce que les catholiques de Tokyo, je crois que c'est essentiellement des convertis. D'ailleurs, moi-même est converti. Et il y a beaucoup de baptêmes d'adultes. Et les missionnaires ont fondé beaucoup des écoles, et ce qu'on appelle Mission School, et qui forment les élites du Japon. D'ailleurs, l'impératrice émérite et la nouvelle impératrice sont issues de ces universités catholiques. Tandis que les descendants de chrétiens cachés de Nagasaki, c'est vraiment une minorité qui a été longtemps oppressée. Donc la vision du christianisme est très différente de Nagasaki et de Tokyo.
Vous évoquiez il y a quelques instants l'impératrice émérite. Est-ce que l'on peut dire que l'empereur et l'impératrice émérite, qui ont donc abdiqué au printemps 2019, est-ce que l'on peut dire qu'ils ont une sensibilité chrétienne?
Oui, nous savons que surtout l'impératrice émérite Michiko a beaucoup de respect envers le catholicisme. Nous le savons. Et je pense qu'elles sont très aimées des chrétiens, oui, japonais.
Et ils ont montré beaucoup d'empathie lors du séisme et de la catastrophe de Fukushima, dans la centrale nucléaire de Fukushima en 2011. Séisme qui a fait 20 000 morts.
Oui, ça c'est très important, c'est l'humilité de l'empereur émérite et l'impératrice émérite. Ils ont vraiment montré leur humilité. Ils se sont fait très proches de ces sinistrés en visitant ces régions sinistrées. La photo qui a beaucoup marqué le cœur des Japonais, c'est l'image de l'empereur émérite qui s'est agenouillé pour se mettre à la hauteur des gens sinistrés. Et c'était impensable. Donc, je pense que la famille impériale actuelle est très aimée du peuple.
Est-ce que l'on peut être au Japon à la fois shintoïste, c'est-à-dire la religion traditionnelle japonaise, culte des ancêtres, de la nature, et également catholique? Est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Et puis aussi bouddhiste, bouddhisme qui est arrivé au 5e siècle.
Oui, ça dépend. Ça dépend des catholiques et ça dépend des chrétiens. Mais je pense qu'en général, les catholiques et les chrétiens japonais pratiquent à la fois le shintoïsme, le bouddhisme et le christianisme. Nous ne voyons pas de contradiction. Il n'y a pas vraiment de la doctrine dans le shintoïsme. C'est une pratique rituelle et qui est vraiment ancrée dans la vie des Japonais. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens se rendent volontiers dans le temple shintoïste, par exemple, pour le Nouvel An. Et aussi, il y a beaucoup de mariages célébrés selon le rite shintoïste. Et il y a des chrétiens qui font le mariage shintoïste et ensuite le mariage chrétien. Et le bouddhisme, c'est la presque totalité des obsèques sont faits dans les temples bouddhistes. Beaucoup de chrétiens et aussi des catholiques, ils sont souvent seuls à être chrétiens dans la famille. Alors, les obsèques, c'est-à-dire qu'il y a question de l'enterrement. Les cimetières sont la plupart du temps dans les temples bouddhistes. Donc, ils sont enterrés dans les cimetières bouddhistes, selon les rites bouddhistes. Mais ça dépend des chrétiens. Mais la plupart des chrétiens, la plupart des catholiques japonais ne voient pas de contradiction. On peut être bouddhiste et faire la rencontre avec le Christ. On peut être shintoïste et faire la rencontre avec le Christ. Et inversement, les chrétiens ont beaucoup à apprendre du shintoïsme et du bouddhisme.
Le catholicisme japonais, si l'on regarde les chiffres, Shintaro Yuzawa est en déclin, en fort vieillissement, à l'image d'ailleurs du vieillissement de la population japonaise. Il y a moins de baptisés, moins qui se déclarent catholiques aussi aujourd'hui.
Je ne dirais pas déclin, mais une stagnation. Le nombre des catholiques, c'est presque stable. Mais quand on voit la baisse sensible du nombre de baptêmes, et aussi un phénomène inquiétant, c'est de plus en plus des catholiques qui ne sont inscrits nulle part, dont on a perdu la trace, c'est-à-dire que ce sont des catholiques qui ont reçu le baptême, mais qui n'ont pas continué. Il reste pendant 5 ou 6 ans, mais ensuite...
Ils ne pratiquent plus, quoi.
Ne pratiquent plus. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu la vraie conversion. C'était un peu conventionnel. Et ça, c'est l'enjeu de la nouvelle évangélisation. C'était par le pape François qu'il y ait la vraie conversion, la vraie joie de l'évangile, la joie de l'amour. Et c'est ce que nous espérons. Que la venue du pape donne un élan nouveau et cette ouverture aux autres. C'est-à-dire qu'à cause de cette longue histoire de persécution et aussi de la persécution insidieuse qui a continué pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Église du Japon est un peu fermée sur elle-même. Les catholiques ne prennent pas position sur les questions sociales. L'épiscopat, bien sûr, fait vraiment des déclarations et aussi des congrégations religieuses, mais les catholiques en général ne font pas cet engagement pour les problèmes sociaux. Mais cela doit changer, c'est l'Église doit sortir vers la société. Et une occasion, c'est vraiment la présence des étrangers, des catholiques de l'Asie du Sud-Est, et de l'Amérique latine qui apporte des cultures complètement différentes de la culture japonaise. Et donc c'est un défi, mais c'est un enrichissement mutuel et c'est une ouverture aux autres. Et aussi, quand on a évoqué de bombardement atomique, c'est aussi comprendre la souffrance que nous avons subie. Bien sûr, les innocents, les enfants innocents japonais ont souffert, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, 10% des victimes du bombardement atomique de Hiroshima sont des Coréens. Ce sont des travailleurs qui ont été amenés de la Corée à cause de l'occupation japonaise. Et le Japon a causé de la souffrance aux pays voisins. Donc, le fait de vraiment reconnaître notre souffrance, c'est aussi reconnaître la souffrance que nous avons causée aux autres. Et c'est ça qui ouvre la voie vers le pardon et la réconciliation.
Shintaro Yuzawa, responsable de l'aumônerie japonaise catholique de Paris. Avec nous dans ce studio, dans le cadre du partenariat, RFI La Croix, Claire Le Segretin, grand reporter au service religion du quotidien. Bonjour Claire Le Segretin.
Bonjour.
Vous revenez du Japon où vous avez rencontré le clergé, les fidèles. Alors on rappelle un chiffre, hein, 0,4% de catholiques au Japon, ce qui n'est pas beaucoup. Ça fait à peu près 400 000 japonais catholiques auxquels on en parlera plus tard. Hein, il faut rajouter 600 000 de catholiques étrangers qui vivent au Japon. Alors ce chiffre quand même est très faible, hein, 0,4%. Vous avez rencontré un prêtre des Missions étrangères de Paris, les MEP, qui vit au Japon depuis plus de 50 ans. Et dans ce reportage que vous signez donc ce week-end dans La Croix, vous lui avez demandé pourquoi un si petit chiffre, surtout comparé par exemple à la Corée du Sud.
Une première raison, effectivement, ce sont ces 250 ans de persécution très, très lourde. Et donc, le catholicisme est resté dans les mentalités comme quelque chose de dangereux.
Les dates exactes de ces persécutions.
Les persécutions, c'est vraiment commencé en 1614 jusqu'en 1873. Donc, pendant 250 ans, un peu plus même, il était complètement interdit d'être chrétien. Si jamais on était pris en ayant un signe chrétien, un symbole chrétien sur soi, dans sa maison, on était aussitôt envoyé à Nagasaki ou dans un autre lieu comme ça, là, où la police du Shogunat, et on était torturé jusqu'à ce qu'on apostasie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on renie sa foi catholique. Et il y avait cette fameuse épreuve qui avait lieu tous les ans, dans tous les temples shinto et bouddhistes. Tous les habitants du village qui dépendaient de ce temple devaient se rendre dans ce temple et piétiner le fameux Efumi. Donc Efumi, ça veut dire piétiner l'image, marcher sur l'image, des images du Christ ou de la Vierge, et on devait marcher dessus. Et s'il y avait la moindre hésitation, la moindre réticence, aussitôt on était envoyé pour être torturé et donc emprisonné, enfin, etc., jusqu'à ce que mort s'en suive bien souvent. Et ça a été montré dans ce très beau film bouleversant de Martin Scorsese, sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Silence », inspiré d'un roman du même nom d'un écrivain japonais qui racontait cette période terrible de survie, des chrétiens cachés.
On voyait effectivement des martyrs en croix.
Crucifiés, voilà. Crucifié. Ça, c'était au tout début des persécutions. Oui. Le shogunat crucifier les chrétiens, et puis se sont rendus compte que finalement les chrétiens aspiraient à cette mort glorieuse comme le Christ, et que pour leur éviter cette gloire, entre guillemets, ils préféraient les torturer. Donc après, si vous vous souvenez, dans le film, on les voit dans des tortures terribles. Voilà.
Oui, un film est extrêmement, extrêmement impressionnant. Alors, ça n'explique pas tout quand même.
Non, ça n'explique pas tout. Alors, ce qui explique ce petit nombre de catholiques, effectivement, aujourd'hui, qui intrigue beaucoup, en comparaison surtout de ce qui peut se voir ailleurs, en Corée du Sud, par exemple, c'est, dit-on, c'est le fait que les Japonais sont déjà des gens très spirituels. Ils ont, avec le Shinto, ils ont une religion, un rapport au sacré, un rapport à Dieu, enfin ils ne le nomment pas comme ça, mais qui est déjà très présent. Ils ont aussi des comportements qui sont marqués par la compassion, la charité. Donc certains missionnaires disent eux-mêmes, finalement, l'évangile ne leur apporte pas beaucoup de choses de plus. Donc ça peut aussi être un élément.
C'est dans la spiritualité shinto.
Dans la spiritualité shinto, voilà,
et
tout
bouddhiste.
À fait. Et bouddhiste. Et puis, c'est vrai que l'église telle qu'on la voit aujourd'hui, au Japon, elle est vieillissante. La liturgie est un petit peu austère, un peu triste même. Beaucoup m'ont dit, elle n'attire pas les jeunes. Les enfants qui sont catéchisés ne viennent plus, un petit peu comme chez nous, mais de manière encore plus frappante. Donc les paroisses aujourd'hui, il faut bien le dire, au Japon, sont très très vieillissantes. Et la grande angoisse des Japonais, c'est nous qui avons résisté, ou nos ancêtres qui ont résisté pendant 250 ans aux persécutions, en deux générations, on a perdu la foi. Donc ça, c'est très triste pour beaucoup de Japonais, ils le disent avec presque avec les larmes dans les yeux.
Et est-ce qu'on peut parler d'un clergé un peu fermé, replié sur lui-même ?
Un peu aussi, alors là c'est peut-être sans doute lié aussi à l'histoire du Japon, qui a vécu quand même coupé aussi pendant des années, des décennies, des siècles, mais aussi peut-être une difficulté à intégrer Vatican II. Les évêques le disent eux-mêmes, Monseigneur Kikuchi, l'archevêque de Tokyo, me le disait. Effectivement, ils ont pris du temps à traduire les textes du concile, à les comprendre, à les intégrer dans leur vision de l'Église. Donc encore aujourd'hui, il y a des traditions, par exemple, alors c'est pas grand-chose, des petits rituels qui nous paraissent un peu, pour nous, un peu obsolètes, un petit peu désuets. Par exemple, les femmes dans les églises japonaises, les églises catholiques japonaises, portent encore des petites mantilles blanches en dentelle, comme nos grand-mères ont porté avant le concile. On récite le chapelet avant le début de la messe. Enfin, des petites choses comme ça, qui sont que des détails, mais qui prouvent un petit peu un attachement à des choses qui ont été abandonnées en Occident.
Oui, un peu anté-conciliaire, on
voilà,
va dire. Hein.
Voilà.
Ouais. La place des laïcs aussi n'est pas très importante,
même. Oui, alors ça aussi, les prêtres le disent, les évêques le disent, en reconnaissant d'ailleurs leur propre responsabilité par rapport à cela. Il a manqué de formation des laïcs, il manque de lieux de formation, même dans des grands diocèses comme ceux de Tokyo. Tokyo, c'est le plus gros diocèse du Japon en termes de chiffres, et il y a peu de lieux de formation. Les laïcs sont formés, certes, mais pas suffisamment. Ils le disent bien, on manque de catéchistes, on manque de personnes capables de parler de la foi en milieu public. Donc il y a une vraie prise de conscience, et je pense que beaucoup de Japonais chrétiens attendent que le pape les réveille, leur dise « Allez, soyez plus audacieux ». Par exemple, on m'a dit, dans des paroisses, c'est très rare qu'on fasse des dîners entre paroissiens, ça ne se fait pas. Puis il faut dire que les Japonais s'invitent très peu chez eux, ça ne se fait pas. Mais et pareil, on n'invite pas non plus des voisins qui ne seraient pas chrétiens, on ne pense pas à les inviter dans une paroisse. Donc, comme cette église est un peu repliée sur elle, bah, effectivement, elle dépérit.
Elle dépérit. Elle peut malgré tout compter sur les 600 000 catholiques non japonais, mais qui vivent, voilà, qui viennent de l'étranger, les Philippins notamment, voilà. Les Vietnamiens, aussi d'Amérique latine.
Oui, tout à fait. Les descendants. En fait, il y a eu un peu trois grandes vagues d'immigration au Japon. Donc, dès les années 60-70, sont arrivées des femmes des Philippines, souvent pour être domestiques ou pour travailler comme, c'est ça, dans les... être épouses aussi, éventuellement, d'agriculteurs qui ne trouvaient pas à se marier au Japon. Et donc, ces femmes philippines, ben, elles sont chrétiennes, elles le sont restées. Quelquefois, leurs enfants sont baptisés aussi. Donc, ça, c'est la première vague d'immigration. Une deuxième vague dans les années 80, avec les enfants des Japonais qui étaient partis en Amérique latine pour faire fortune, et leurs enfants sont revenus, donc parlant espagnol, et souvent s'étant convertis au catholicisme dans ces pays d'Amérique latine. Donc ils sont revenus avec leurs traditions latinos. Alors ça, c'est plus joyeux justement, c'est plus coloré. Alors ça amène un peu de vie dans les paroisses, mais c'est souvent des paroisses un peu dans les banlieues, un peu éloignées des centres-villes. Et puis troisième vague d'immigration plus récente, les Vietnamiens, et puis aussi des Philippins, mais qui viennent travailler dans les usines ou japonaises où on manque clairement de main-d'œuvre. Mais ils viennent pour des temps limités. Ils ont des contrats de travail sur 3 ans, pas plus.
Mais alors donc l'Église a priori peut compter sur ces catholiques. Au Japon, venus d'étrangers.
Voilà, et les paroisses, ça m'a été dit, puis j'en ai vu, oui. sont très dynamiques par rapport à ça, pour accueillir les immigrés, pour leur faciliter l'apprentissage du japonais. Il y a des cours de langue, il y a des mises en situation pour apprendre à se débrouiller dans les administrations japonaises. Donc l'Église, les paroisses font beaucoup par rapport à ça.
Alors, retour avec vous sur la ville de Nagasaki, hein, sur laquelle donc, a été larguée 3 jours après Hiroshima la bombe H. Nagasaki, berceau du catholicisme, il y a à peu près 10% de catholiques japonais qui se trouvent à Nagasaki, donc ce qui est important. C'est une ville aussi qui a été marquée, donc on l'a entendu tout à l'heure, hein, par la présence de Takashi Nagai, et puis aussi avant lui, du père, du saint, Maximilien Kolb, qui est mort en 1942 à Auschwitz, parce qu'il a pris la place d'un père de famille qui devait être fusillé.
Oui, alors Maximilien Kolb, il faut rappeler les dates, est arrivé au Japon en 1930. Il y est resté 6 ans, jusqu'en 1936. Et c'était une époque où le Japon était très pauvre. Donc Maximilien Kolb le dit, il l'a écrit dans ses journaux intimes et tout ça. Il a vécu de manière très, très, très pauvre, souffrant du froid, de la faim. Et il a acheté un grand terrain sur lequel a été construit donc, le couvent franciscain, qui est toujours debout. Enfin, c'est ce couvent où vivent une communauté franciscaine, un peu vieillissante là aussi, mais qui est quand même bien là. Et ce couvent donc a accueilli, après la guerre, après la bombe de 45, le 9 août 45, a accueilli beaucoup d'enfants orphelins ayant tout perdu, ayant perdu leurs parents, leur maison, leurs ressources. Et ils ont eu un rôle important pour permettre à des jeunes de se former, de trouver un métier, de grandir. Et en particulier, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vécu cela, qui s'appelle le frère Thomas Ozaki, qui est devenu franciscain après avoir été accueilli par les franciscains après la bombe. Alors pour vous situer un peu, Thomas Ozaki donc, avait 17 ans au moment de la bombe. Il avait été réquisitionné, comme beaucoup de jeunes de son âge, dans les usines d'armement. Et j'allais dire sa chance à lui, ça a été d'être dans une usine qui avait été creusée dans un tunnel, si bien qu'il n'a pas été victime des radiations.
Enfin, on l'a obligé à sortir, manifestement.
Oui, on l'a obligé à sortir, mais puis il ne savait pas à l'époque que c'était, il allait être irradié. Il l'a été, il a eu des cancers, mais il en a toujours réchappé. Et donc, Thomas Ozaki, ce jeune garçon, donc pendant cette journée atroce qui l'a marqué à tout jamais pour le restant de ses jours, il ne peut pas oublier tout ce qu'il a vu comme atrocité, a donc erré pendant des heures et des heures, a essayé de retrouver le quartier d'Urukami, dont il était, ce quartier chrétien d'ailleurs de Nagasaki, en essayant de retrouver la trace de sa maison, de sa maman. Bien sûr, il n'y avait plus rien, tout avait été explosé, brûlé, carbonisé. Et puis surtout, il a rencontré plein de personnes qui étaient là à hurler, à pleurer, à sangloter en demandant de l'aide. Et lui, se sentant incapable et puis ayant trop peur de tout ce qu'il se voyait, à chaque fois a pris la tangente, il a fui à chaque fois. Et donc pendant des années après, il a été culpabilisé par cette lâcheté, par ces fuites à répétition. Il s'en voulait terriblement aussi, comme souvent des survivants après une catastrophe, ils se disent « mais pourquoi je vis ? Pourquoi moi j'ai eu le droit de vivre alors que tant d'autres ont trouvé la mort ?» Et ce jeune Thomas donc a grandi, est devenu franciscain, mais il était toujours rongé par cette culpabilité. Jusqu'au jour où il a pu aller dans le bunker à Auschwitz, où le père Kolb était décédé. Il a pu prier dans ce lieu, il a senti une paix venir en lui. Et puis surtout, ça c'est assez exceptionnel aussi, il a pu rencontrer ce père de famille, sauvé grâce au père Kolb. Il a pu aller le voir 3 fois de suite, il est allé le voir en Pologne, pour parler avec lui. Et il s'est rendu compte que ce père de famille, je ne sais plus son nom, c'est un nom polonais, avait lui aussi souffert de culpabilité. Parce que lui non plus ne voyait plus le sens de sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi un autre était mort à sa place. Et il était dans une espèce de dépression. Et tous les deux, ces deux hommes, marqués à tout jamais par l'horreur de la guerre, ont pu grâce à Maximilien Kolb, ont pu se restaurer et sortir de la culpabilité. Donc je raconte ça dans un papier qui sort ce week-end. Mais c'est vraiment une rencontre qui m'a marquée, effectivement, celle du frère Thomas Ozaki.
Là, vous évoquiez donc le témoignage de ce frère franciscain. Les franciscains sont arrivés au Japon après les jésuites.
Hein, 50 ans après. Les premiers jésuites sont arrivés en 1547 ou 49. Et c'est François-Xavier lui-même, donc le bras droit, le cofondateur de la Compagnie de Jésus avec saint Ignace, qui est arrivé au Japon. Il a été d'abord passé par la Chine, par Macao, et de là, il est arrivé au Japon. Il n'est pas resté très très longtemps, il a resté quelques mois, mais il n'empêche qu'il a beaucoup marqué déjà les Japonais, parce qu'il avait été reçu de manière très courtoise par le seigneur local dans le sud, parce qu'il faut bien comprendre
que
c'est par le sud que sont arrivés tous les missionnaires et tous les commerçants, par l'île de Kyushu, donc l'île dont la capitale est Nagasaki. Et donc il a réussi à se faire introduire dans les milieux du pouvoir japonais par le seigneur local. Et puis après, d'autres jésuites sont arrivés et tout de suite ils ont réussi à faire une sorte d'inculturation. Et c'est très intéressant parce que même...
À la Matteo Ricci,
à la jésuite, comprenant le fonctionnement, déjà essayer de traduire les termes chrétiens dans la langue japonaise avec des mots qu'ils ont inventés pour faire comprendre le mot Dieu, le mot Vierge Marie, le mot Christ. C'était des mots qu'il fallait inventer entièrement. Et en faisant venir une imprimerie. Donc ils ont contribué à dispatcher des évangiles, des bibles. Et puis ils ont vraiment formé les consciences de manière très profonde, si bien que ça peut aussi expliquer le fait que pendant 250 ans, les chrétiens cachés se soient transmis la foi.
C'était du solide.
Et d'ailleurs, dans un des petits musées qu'on visite à Nagasaki, il y a une médaille du Christ avec au-dessus gravé IHS, l'emblème des jésuites. Hein. Et on se dit, cette médaille, elle avait dû être donnée au 15e siècle, au 16e siècle, pardon, par un jésuite, un japonais converti.
Alors, dernière question, Claire Le Segretin. Le shintoïsme, le bouddhisme, le catholicisme, ça fait bon ménage tout ça pour les convertis?
Alors, il y a un slogan qu'on entend souvent au Japon, c'est « on est shinto, on se marie chrétien et on meurt bouddhiste ». On est shinto parce qu'effectivement, toute la société est marquée par le shintoïsme, c'est une forme de chamanisme pour dire vite, où il y a des arbres qui sont vénérés, des arbres sacrés, où il y a des lieux, des montagnes, des forêts qui sont vénérées, etc. Donc ça fait partie de la vie de tous les Japonais. Tous les Japonais sont très marqués par cela. On se marie chrétien parce qu'effectivement c'est chic de se marier à l'occidental, être en blanc. D'ailleurs dans les hôtels chics, il y a des petites chapelles, des pseudo-chapelles avec des pseudo-vitraux pour faire croire qu'on est dans une chapelle occidentale. Et puis on meurt bouddhiste parce qu'effectivement les rituels de la mort bouddhiste sont très beaux, ont du sens et accompagnent bien la fin de vie donc d'un Japonais.
Je vous remercie Claire Le Segretin. Donc je rappelle que votre reportage, donc on peut le retrouver sur lacroix.com en ligne donc, et puis aussi dans l'hebdo La Croix, qui est donc le nouvel hebdo du week-end du journal La Croix. Merci.
Merci.
Et nous refermons cette émission avec le beau témoignage de Madame Makiko Kubota, née à Tokyo et dont l'enfance a été marquée par l'après-guerre et qui vit en France depuis de longues années. Makiko Kubota s'est convertie à la fin de la soixantaine au catholicisme avec lequel elle avait été en contact au Japon, pays où, dit-elle, la foi n'a pas une grande place.
La foi n'a pas une très grande importance. Les codes de la vie, des bonnes conduites, oui. Mais ce qu'on appelle la foi, comme les catholiques, comme le credo, ce n'est pas du tout quelque chose qui règne dans la vie.
Les bonnes conduites, c'est-à-dire des bonnes conduites issues des préceptes du bouddhisme et du shintoïsme?
Oui, aussi. Un peu comme les 10 commandements des catholiques, c'est-à-dire pas voler, pas calomnier... pas de vie dissolue, etc., etc. Et respecter les parents, hein. Mais dans le sens de la foi à la catholique, non. Mais en revanche, j'étais sensibilisée à la religion catholique parce que j'ai vu, entre autres, beaucoup de livres de beaux-arts, de peintures occidentales, et j'ai été très frappée par les tableaux illustrations des tableaux de Giotto. Giotto, baiser de Yuda, etc.
Et le Giotto, donc, vous a influencé, et d'autres peintres encore italiens?
Il y a eu Fra Angelico, de Annonciation, je crois. Et puis, sinon, comme je faisais du piano, j'ai beaucoup de Bach, j'ai beaucoup étudié Handel, et je trouve que les chants grégoriens aussi étaient importants pour moi, pour bien jouer la musique et bien comprendre la musique occidentale.
Et vous êtes passé par une école catholique au Japon ?
Oui, j'ai eu la chance d'y être passée. Mais j'étais déjà passée dans une chapelle, toute petite chapelle, et je me suis trouvée très bien. Mais je n'ai pas été tout de suite à l'école catholique, et j'ai eu la chance d'y être admise vers les 10 ans, non, 11 ans plutôt. À l'époque, on n'avait pas trop de... On ne lisait pas beaucoup de Bible. En revanche, la messe en latin.
Vous êtes né juste au sortir de la guerre.
Voilà, c'est bien ça. Oui.
Donc votre enfance, c'est une enfance de l'après-guerre, avec peu de distractions. Comment se déroule votre enfance au Japon, à Tokyo?
Eh bien, je n'avais pas de jouets. On n'était pas les plus malheureux, mais on n'avait pas joué. Donc il y avait un piano chez mes grands-parents, donc c'était mon jouet. Et les peintures, des livres de peinture, c'était ça, mais mes jouets, voilà.
Vos jouets, c'était, enfin vos jeux, ou en tous les cas vos distractions, c'était regarder Giotto, Fra Angelico.
Angelico, Da Vinci et Botticelli, voilà. À l'époque, il n'y avait pas de manga, vous savez.
En France, vous allez vous convertir au catholicisme. Pour vous, c'était une évidence qu'un jour vous deviendriez catholique. Et est-ce que vous vous sentez en même temps shintoïste, bouddhiste ou vraiment catholique, uniquement catholique?
Je crois que beaucoup de religions se rejoignent quand même. Il y a des moments où j'aime beaucoup les... Ce que disent le Bouddha, l'histoire par exemple de la vie n'est qu'un passage et qu'il faut se libérer de richesses et des honneurs, mais aussi la misère, des malheurs, parce que ce n'est qu'un passage. Bon. Ça, je pense que c'est bouddhiste. Mais j'ai quand même la foi, je pense que nous sommes des créatures de Dieu. Et je pense que ça, c'est une chose... C'est très catholique, c'est très chrétien en fait.
Dans le shintoïsme, nous sommes la créature de qui?
Non, nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Hein. C'est le père et la mère, bien sûr. Et puis après, ils ont 10 000 dieux, donc ils sont là en train de protéger, de faire du bien et réprimander éventuellement si ça ne va pas. Mais ils ont 50 000 dieux, donc c'est pas un seul dieu de l'univers. Voilà.
Qu'est-ce que vous a apporté le catholicisme en plus du bouddhisme?
Je crois que je ne suis plus seule. Je pense que c'est ça. Je peux toujours me confier sans que ça peut avoir des répercussions effroyables, comme si je le faisais à des amis. Non, je ne suis plus seule. Et c'est un réconfort pour moi.
Makiko Kubota, de la communauté japonaise catholique de Paris. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.